session de philosophie sur la contemplation par le père Philippe et le père Gouthière à Rimont, le 23 mai 1998, deuxième conférence.
Alors, il y a deux questions là justement. Hein. Je dis pour ça pour les pour ceux qui les ont posées. Je vais y venir dans un instant, hein, puisque ça touche la distinction entre philosophie et théologie. Comme j'aurais voulu lire un petit passage de saint Thomas, on va y venir. Alors, je précise aussi, on me l'a demandé, hein, j'ai dit tout à l'heure, et il y en a qui ont, je crois, mal compris, enfin, je n'ose pas dire ça, mais c'est peut-être quand même la solution. Bon, hein, j'ai dit, paraît-il, que l'ami n'est pas un absolu. C'est vrai. En quel sens? Dans l'ordre de l'être. Parce que la personne humaine, dans un jugement de sagesse, est une créature. Donc, bien sûr, l'ami est un absolu dans l'ordre de l'amour, parce qu'il est fin. La personne aimée, au niveau spirituel, est fin. Donc, il faut faire attention, quand je dis « il n'est pas un absolu », ça veut dire « tout en étant un absolu, l'amitié, cependant, conduit à un dépassement de l'amitié, mais qui ne la supprime pas, qui la fait voir dans une autre lumière. » Parce que l'ami, la personne de l'ami, dans son être même, appelle l'existence d'une réalité première. C'est en ce sens que la bonté d'une personne humaine n'est jamais substantielle, absolue. L'ami ne peut pas être la bonté première, puisqu'elle est une créature. La personne de l'ami n'est pas première dans l'ordre de l'être. Et donc, le premier aimable, hein, évidemment, pour dire ça, c'est complexe parce que ça implique toute la métaphysique. Mais bon, pour dire ça, pour saisir le premier aimable, le premier intelligible, il faut saisir que c'est relatif à l'être premier. Puisque le bien, puisque le vrai, sont des modes de l'être en acte. Je dis ça en tout cas pour les frères. Donc vous voyez, c'est ce qui est bon. Comme acte de ma volonté. Donc, ne peut être source d'un amour plénier, absolu, qui permette à ma volonté de trouver un repos plénier, ne peut être source d'un repos pour mon intelligence que l'être premier qui, seul, est la vérité. Vous voyez, la personne de l'ami ne peut jamais dire « je suis la vérité ». Non. Je cherche la vérité. Et c'est pour ça que les Juifs ne s'y sont pas trompés. Quand Jésus dit « moi je suis », ils disent « tu blasphèmes, parce que étant homme, tu te fais Dieu. Je suis ». Il fait référence à la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Et quand il dit « moi je suis le chemin, la vérité et la vie » à ses apôtres, « moi je suis la vérité », il n'y a que Dieu qui peut dire ça. Un homme ne peut dire « je suis la vérité » que s'il est Dieu. Parce que nous ne sommes... aucune personne humaine ne peut dire « je suis la vérité ». Je cherche la vérité et je l'ai atteinte en partie. J'ai découvert quelque chose de la vérité. Donc, important à noter. Hein. Alors, je voudrais d'abord terminer avec vous, enfin terminer, façon de parler, parce que la contemplation, c'est pas tellement terminé. Bon. Mais le cours... Hein. Je voudrais vous lire deux textes d'Aristote qui me semblent tellement importants, parce que, toujours sur la contemplation de l'éthique à Nicomaque, je passerai sur l'Yves Lambda, malheureusement, parce qu'on n'a pas assez de temps, et puis je vous lirai un article de saint Thomas sur comment, comme théologien, il regarde la connaissance que nous pouvons avoir de Dieu par notre intelligence philosophique. Donc là, c'est un passage qui me semble important, et on verra quelle est la différence de l'approche de saint Thomas. Alors, c'est la suite du texte que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est par rapport au rapport entre l'homme et Dieu. Donc c'est toujours dans l'Éthique à Nicomaque, livre 10, chapitre 7. « Mais une telle vie, hein, donc cette vie théorétique, contemplative, une telle vie sera au-dessus de celle qui est selon l'homme. Car ce n'est pas en tant qu'homme qu'il vivra de cette manière, mais en tant que quelque chose de divin est présent en lui-même. » C'est tellement extraordinaire, ça. Mais donc la distinction qu'on retrouve, et c'est pour ça que je lis ce texte, qu'on l'a vu hier longuement, on retrouve ici, au niveau de l'activité qui donne le bonheur, cette distinction que nous avons vue au niveau des vertus intellectuelles entre la prudence et la sagesse. La prudence, c'est une vertu de l'intelligence pratique qui regarde les choses proprement humaines, hein, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la vie de l'homme comme homme. C'est-à-dire, si on creuse un tout petit peu, hein, le fait que l'homme a une âme spirituelle qui est unie substantiellement à un corps. Bon. L'achèvement, hein, le dépassement de la prudence, et ce au service de quoi la prudence se trouve, comme la fin humaine première, qui est pleinement humaine, de l'homme comme homme, c'est l'amitié. L'amitié, elle existe comme une véritable fin pour l'homme, en tant que l'homme a une âme spirituelle unie substantiellement à un corps. C'est parce qu'il y a une communauté de nature entre les hommes qu'il peut y avoir une véritable amitié. C'est pour ça que le théologien chrétien, c'est un nota bene, dira qu'il n'y a pas d'amitié naturelle chez les anges. Chaque ange a une nature unique. Les anges ne s'aiment donc que par la charité, par Dieu. Il n'y a pas d'amour naturel entre les anges. Parce que chaque ange est unique, c'est un monolithe, hein, j'allais dire, si on peut parler comme ça. Il ne peut être que pour Dieu immédiatement, il est un esprit pur. Tandis que parce qu'il y a un corps, parce que nous avons une nature humaine commune qui se communique des hommes les uns par rapport aux autres par le don de la vie, il y a une communauté de nature, donc une koinonia fondamentale, une sympathie, une connaturalité entre les hommes qui est ce qui dispose de manière la plus fondamentale à un choix amical. C'est pour ça qu'Aristote souligne dans l'Éthique à Nicomaque, dans son traité sur l'amitié, que l'amitié qui implique un choix libre s'enracine dans l'amour naturel que les enfants ont pour leurs parents, que les parents ont pour leurs enfants. Ce qui est très très beau, vous voyez. Donc vous voyez, là on souligne d'ailleurs au passage hein, l'importance de la famille et de l'éducation. Mais ça je ne développe pas, ce serait un autre sujet, ce serait vraiment une étude au point de vue de l'éthique. Mais c'est très intéressant, vous voyez. Il y a une amitié qui s'enracine, vous voyez, donc il y a deux choses si vous voulez. L'amitié, elle relève bien du choix personnel. Mais ce choix personnel, il développe, hein, il épanouit en nous un amour naturel de l'homme. Pour l'homme. Vous voyez ce qu'on appellera une sympathie naturelle des hommes les uns pour les autres, une philanthropie. Et la philanthropie n'est pas une finalité. Mais l'amitié qui implique un choix personnel d'une personne à l'égard d'une autre personne, ce choix étant réciproque, s'enracine dans un amour naturel, dont le fondement. L'amour naturel par excellence, c'est l'amour des parents pour leurs enfants et des enfants pour leurs parents. Vous voyez, au sens strict, je n'ai pas choisi mes parents. Ce n'est donc pas une amitié au sens précis. Mais cet amour naturel qu'une mère a pour ses enfants, qu'un père a pour ses enfants, peut devenir une amitié par un choix quand l'enfant devient capable de choisir. Mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. L'amitié, c'est un choix libre. C'est pour ça que l'enfant sort de sa famille quand il devient capable d'un choix amical. Hein. C'est l'aspect naturel humain le plus simple. Vous voyez, ça c'est très important à souligner, hein, que Aristote souligne que la vie selon l'homme, la vie humaine selon l'homme, qui exige toutes les vertus morales, qui est donc l'agir humain parfait, c'est l'amitié, qui implique ce choix personnel où l'homme fait l'expérience de sa responsabilité et de sa liberté la plus grande. Et c'est très important de le noter, ça. C'est une chose que Platon met complètement de côté. Hein. Pour Platon, il n'y a pas d'amitié. Je souligne que c'est très important. Pourquoi ? Parce que j'allais dire, d'une certaine façon, le choix amical, quant au choix, il est plus parfait que quand il s'agit de Dieu. Pourquoi ? Au sens strict, de Dieu, je ne le choisis pas, il s'impose, parce qu'il est l'être premier. L'adoration, c'est pour ça que saint Thomas dira que l'adoration est au niveau de la justice à l'égard de Dieu. C'est un devoir d'adorer, parce que c'est la vérité la plus objective. Je suis une créature. Je ne suis donc vrai que quand je reconnais volontairement cette dépendance par rapport à Dieu, ce qu'est l'adoration. C'est pour ça que pour Aristote, au sens précis, bien sûr, on peut peut-être dire autre chose. Hein, je parle ici avant tout d'Aristote. Pour Aristote, il n'y a pas vraiment d'amitié entre l'homme et Dieu. Il y a un amour naturel de la créature pour le Créateur. Mais ce n'est pas vraiment une amitié, parce que ce n'est pas vraiment un choix. C'est pour ça que la liberté religieuse n'est pas du tout la même que la liberté dans l'amitié. Et la liberté dans l'ordre de l'adoration, c'est celle de reconnaître ma fin ultime et donc de me libérer de toute autre dépendance. Elle est beaucoup plus profonde que la liberté de l'amitié, c'est sûr. Mais quant au mode humain, c'est pas la même chose. Mais l'expérience que je fais la plus libre comme homme, c'est le choix amical. C'est là que ma responsabilité est la plus grande. Même si dans l'adoration, j'expérimenterai une liberté beaucoup plus profonde. Voyez. Mais quant au choix, le choix de l'ami, c'est le choix que je fais. Et tandis qu'à l'égard de Dieu, c'est une nécessité en justice, parce que Dieu m'a aimé le premier. Et je dois répondre. Oui. Vous savez, c'est dans une parole de l'Ancien Testament qui est tellement forte. Hein. Si je suis Dieu, où est l'honneur qui m'est dû? Et l'honneur qui est dû à Dieu, c'est l'adoration. Hein. Rendre un culte à Dieu, parce que Dieu est créateur. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, l'ami n'est pas créateur de mon âme spirituelle. Je ne peux donc pas l'adorer. Mais par contre, il y a un choix amical réciproque dans l'amour spirituel qui est unique. Bon, et qui fait comprendre à l'homme le sommet de son agir moral. Les choses proprement humaines, l'activité proprement humaine a son sommet dans l'amitié. Parce que c'est ce qui exige l'acquisition de toutes les vertus morales. Donc toute la perfection morale de l'homme n'a de sens qu'en tant qu'elle est finalisée par l'amitié. Sinon les vertus, c'est un formalisme. Si je suis courageux pour être courageux, ça ne rime pas à grand-chose. J'acquiers le courage pour être courageux pour aimer, parce que l'amour exige toujours beaucoup de force. Si je m'arrête au moindre obstacle, il n'y a pas d'amitié. L'amitié n'est pas une chose facile, elle se conquiert. Et il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de force. Il faut beaucoup de tempérance, parce que l'ami n'est pas un pot de confiture qui est à ma disposition et que je dévore comme je le veux. Ça, c'est la passion. Oui. C'est très important à saisir. Oui. L'agir humain dans l'amitié exige l'acquisition des vertus morales. C'est pour ça qu'Aristote a cette phrase. Il dit « L'amitié semble être une certaine vertu, ou plutôt ne va pas sans vertu. » Elle est plus que les vertus. L'amour est au-delà de la vertu, parce qu'il est naturel à l'homme d'aimer. Mais pour aimer vraiment de manière pleinement libre, il faut que j'acquière des vertus morales. Donc il y a une éducation de soi-même dans l'amitié. C'est pour ça qu'Aristote souligne, la vie contemplative, qui est selon la sagesse, c'est une vie qui est au-dessus, au-delà, qui dépasse la vie qui est selon l'homme, qui est la vie qui est au niveau de la prudence, en tant qu'elle est au service d'une fin proprement humaine, celle qu'est l'amitié. Alors c'est pour ça qu'Aristote dit « La contemplation pour nous est fin comme quelque chose d'ultime et qui est selon ce qui dans l'homme est quelque chose de divin. » C'est-à-dire l'émergence dans son intelligence d'un appétit de vérité qui est au-delà de la connaissance simplement pratique. C'est pour ça que je vous ai dit hier qu'il ne peut pas y avoir de recherche de la contemplation sans l'éveil d'une recherche de la vérité gratuite au-delà de l'aspect prudentiel. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'ami ne peut jamais dire qu'il est, parce qu'il est ami, mesure de ma vérité spéculative. C'est pas vrai. Mon intelligence a une exigence de vérité qui ne peut pas être mesurée par l'opinion de l'ami, même le plus intime qui soit. Parce qu'il y a une exigence de vérité de l'intelligence qui est faite pour ce qui est. Oui, c'est très important, parce que je crois que la voie d'accès qui nous permet de dépasser, entre guillemets, de saisir un au-delà de l'amitié, c'est peut-être la recherche de la vérité. Cette phrase d'Aristote, tellement belle, « Platon et la vérité, je les aime tous les deux, mais quand on est philosophe, c'est un devoir sacré de préférer la vérité à l'amitié. » Il ne veut pas dire que Platon a une quantité négligeable, parce que Aristote a été l'ami de Platon de manière extraordinaire. Il a été son disciple pendant 20 ans. C'est une amitié d'une profondeur extraordinaire. Mais il ose dire « je préfère la vérité », parce que le philosophe qui cherche la contemplation, même l'ami le plus cher, ne peut pas être mesure dans son intelligence de mon appétit de vérité. Et mon intelligence n'est pas mesurée par l'opinion d'un homme, mais par ce qui est. Et c'est ce qui me conduit jusqu'à Dieu. Alors ça me semble très important à souligner, vous voyez ? Donc c'est pour ça qu'Aristote souligne ça. Une telle vie sera au-dessus de celle qui est selon l'homme, entre guillemets. Car ce n'est pas en tant qu'homme qu'il vivra ainsi, de cette manière, mais en tant que quelque chose de divin est présent en lui-même. Alors ça, je crois que c'est aussi très important à souligner, ça veut dire vraiment, c'est pour ça que pour Aristote, la contemplation n'est pas la fin première de la vie morale. Pour Aristote, on ne peut pas télescoper l'amitié. Parce que la contemplation, comme elle est l'acte de ce qu'il y a de plus spirituel dans mon intelligence, ne mobilise pas immédiatement toutes mes forces vitales et sensibles. Vous voyez, ça, c'est la grande différence avec Platon. Je parle ici de la contemplation philosophique. Ce serait très différent dans la contemplation chrétienne. Parce que, étant donné que Dieu s'est fait homme, la contemplation chrétienne assume immédiatement toute ma vie. Pas la contemplation philosophique. Elle est avant tout au niveau de la fine pointe de mon intelligence et de la recherche de la vérité. Mais toute ma vie sensible, toute mon affectivité n'est pas immédiatement mobilisée par la contemplation. Pourquoi je n'ai pas l'expérience de Dieu ? Oui, c'est pour ça que l'amitié est nécessaire. Comment éduquer mon affectivité ? C'est dans l'ordre de l'amitié. Parce qu'à l'égard de Dieu, Dieu est un être qui est beaucoup moins, qui me parle beaucoup moins comme homme qu'une personne humaine. Et c'est pour ça qu'on est tout, on peut être tenté de s'arrêter à l'amitié. Et c'est peut-être sûrement une raison pour laquelle Platon, au fond, ne veut pas trop s'arrêter à l'amitié. Vous voyez, mais Platon, au fond, ne s'arrête pas à la personne de l'autre. C'est bien ce qu'il dit dans Le Banquet. Pour lui, l'amour n'est qu'un moyen par lequel on passe pour contempler. Mais on ne s'arrête jamais à la personne de l'autre. L'autre n'est pas aimé dans sa personne pour elle-même. La personne de l'autre n'est pas aimée pour elle-même, pour Platon. J'aime l'autre comme un moyen dont je me sers pour accéder à Dieu, ce qui n'est pas digne de la personne humaine. Vous voyez, donc c'est très délicat tout ça. Et je crois vraiment très important que la contemplation philosophique ne garde tout son réalisme que s'il y a par ailleurs le réalisme de la prudence et d'une véritable amitié. Et l'adoration ne mobilise pas immédiatement toute ma personne humaine dans toutes ses virtualités. Parce que Dieu est esprit. Oui, dans la vie chrétienne, c'est différent, parce que Dieu s'est fait homme. Donc Dieu s'est fait l'ami. C'est pour ça que dans la contemplation chrétienne, contemplation et charité fraternelle ne font qu'un, ce qui ne pourra jamais être vrai en philosophie. Il y a toujours une espèce de dualité qui demeure, l'amitié et la contemplation. Et je ne peux jamais dire que je contemple l'ami. Et je ne peux jamais dire jusqu'au bout qu'il y a une véritable amitié dans la contemplation de Dieu. Parce qu'il y a l'adoration. Tandis qu'en terre chrétienne, par la charité, ces deux finalités qui finalisent la personne humaine sont le même amour. J'aime Dieu et le prochain du même amour. Pourquoi c'est possible ? Parce que Dieu m'a promis sa propre béatitude comme la mienne. Et parce que Dieu s'est fait homme. Donc il s'est fait l'ami qui se donne pour me faire vivre déjà de la faim. C'est ce que dit saint Thomas. Quand saint Thomas dit « Pourquoi la charité est-elle une amitié avec Dieu ?» Et il souligne « Toute amitié présuppose une communauté de nature, une koinonia. Il y a une charité qui est une amitié avec Dieu parce que Dieu a pris l'initiative de me faire participer à sa propre béatitude. Je suis fait pour Dieu, pour vivre sa propre vie. » Et ce que le philosophe ne peut pas dire, on le verra tout à l'heure. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très fort ce que dit Aristote. Ah oui, du coup, la tentation, ça va être de dire donc que la contemplation, c'est au-delà de nous. La contemplation philosophique, c'est inaccessible. C'est un bel idéal. Alors vous voyez, il souligne ça. Autant ce quelque chose de divin diffère du composé, autant aussi son acte diffère de celui qui est selon l'autre vertu, c'est-à-dire la prudence. Alors, oui, c'est des termes un peu complexes. Le composé pour Aristote, c'est le composé d'âme et de corps. Pour ça, je souligne bien. L'autre vertu qui est la prudence, c'est la vertu de l'homme en tant que son âme est unie à un corps, et donc qu'il mène une vie commune avec d'autres personnes humaines. La contemplation, c'est la fine pointe, la sagesse, c'est la fine pointe de l'intelligence qui cherche la vérité pour elle-même. Et c'est donc, non pas le composé, mais ce qu'Aristote appelle le nous séparé, l'esprit séparé du sensible. Et il n'y a pas de vie commune avec Dieu en philosophe. Si donc le nous, l'esprit, est divin par rapport à l'homme, la vie selon le nous, selon l'esprit, est divine par rapport à la vie humaine. C'est ce que je vous ai dit hier. la vie contemplative n'appartient vraiment qu'à Dieu. Pour l'homme, elle est toujours quelque chose qui est au-delà. Il est fait pour cela, et cependant, il est au-delà, elle est au-delà. Alors voyez, du coup, on serait tenté de dire, mais donc simplement, supprimez tout simplement ça, ce sera beaucoup plus confortable. Contentez-vous de la prudence. Et ça, c'est les stoïciens. Pour les stoïciens, il n'y a plus de contemplation. Il n'y a plus qu'une vie politique et une prudence. Le sage stoïcien est un homme politique. Donc qui met, je dirais, sa gloire et son bonheur uniquement dans la vie humaine selon l'homme. C'est pour ça que pour les stoïciens, il n'y a plus de contemplation, il n'y a plus qu'une religion. L'immanence du divin dans notre vie humaine. Vous voyez, la providence uniquement. Il ne contemple plus Dieu en lui-même. C'est uniquement la providence de Dieu qui gouverne les affaires humaines. Alors la providence, c'est lié à la prudence. C'est l'analogie que prendra saint Thomas. Et c'est très très intéressant. Juste après Aristote, les stoïciens, c'est très peu de temps après. Zénon, c'est 20 ans après la mort d'Aristote. Le stoïcisme antique, c'est la suppression de la contemplation pour se ramener uniquement à une vie active selon la prudence. Quelquefois, à une prudence très noble, une prudence religieuse, mais qui n'est plus la contemplation. La contemplation, c'est chercher à connaître Dieu pour lui-même, et cela me suffit parce que Dieu est premier. Pour les stoïciens, ce qui est important, c'est de gouverner les hommes. Alors, on gouvernera les hommes de manière sage si on les gouverne selon la providence de Dieu. Mais ce n'est plus une contemplation. On reste au niveau du gouvernement divin, de la sagesse. Si donc le nous c'est divin par rapport à l'homme, la vie selon le nous c'est divine par rapport à la vie humaine. Alors oui, Aristote va juste en sens inverse, parce que la tentation serait donc de dire ce que je viens de vous dire. Si c'est divin, ça dépasse l'homme. Donc ne cherchons pas cela, ça nous dépasse. Alors Aristote dit ceci. Il ne faut donc pas suivre ceux qui conseillent à l'homme, parce qu'il est homme, de borner sa pensée aux choses humaines et mortelles aux choses mortelles. Mais l'homme doit, autant qu'il le peut, s'immortaliser et tout faire pour vivre selon la partie la plus excellente qui est en lui. Car même si elle est petite par la masse, oui, c'est très drôle, car même si elle est petite par la masse, par la puissance et par la valeur, par la noblesse, elle dépasse de beaucoup tout le reste. On peut même penser que chaque homme s'identifie à cette partie même, puisqu'elle est principale et la plus précieuse. Il deviendrait alors insensé s'il ne choisissait pas la vie qui lui est propre, mais celle de quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est très extraordinaire cette espèce de passage. On a dit tout à l'heure, la vie humaine, c'est les choses proprement humaines, la prudence. Alors Aristote dit, la vie selon le nous, la contemplation, elle est divine. Elle appartient à l'homme en tant que quelque chose de divin est présent en lui, son nous séparé. Donc la tentation, il vaut mieux se rabattre sur les choses humaines, les choses mortelles, les choses périssables, les choses contingentes, la prudence, quoi. Et il ajoute, non, l'homme doit tout faire pour s'immortaliser et développer cette recherche de la vérité qui est en lui, cette sagesse. Et il ajoute, on peut même dire que cette partie, parce qu'elle est la plus précieuse, parce qu'elle est la plus noble, devient ce qui est le principal. Le principal, c'est l'apanage de la finalité. C'est ce qui est premier. Et il a l'audace d'ajouter, on peut même dire que l'homme s'identifie à cela. C'est ce qui est tout à fait propre à lui, en fait, en définitive. Et donc, il serait insensé s'il ne cherchait pas à mener cette vie qui est tout à fait propre à l'homme. Il est passé de ce qui est proprement humain au niveau de la prudence à ce qui est le plus propre à l'homme au sens de la finalité ultime. Et s'il mène une autre vie, il ne va pas jusqu'au bout de ce qu'exige son cœur d'homme. Et il deviendrait alors insensé. C'est très beau ce terme. On le retrouve dans les psaumes, dans une autre tradition. Il deviendrait alors insensé s'il ne choisissait pas la vie qui lui est propre, mais celle de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, en fait, la vie d'un homme qui reste au niveau des choses temporelles, périssables. Ce que nous avons dit plus haut s'appliquera aussi maintenant. Ce qui est propre à chacun, c'est par nature ce qu'il y a de plus excellent et de plus agréable pour lui. Et ce qui est propre à chacun, c'est ce qu'il y a de plus excellent en lui. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus excellent dans l'homme ? Son intelligence et sa volonté spirituelle. Donc, ce qui est principal en lui et le plus lui-même, c'est son intelligence capable de vérité et de contempler. Et sa capacité d'aimer d'un amour spirituel. Pour l'homme, c'est la vie selon le nous, hein, selon l'esprit, puisque c'est cela avant tout l'homme. C'est extraordinaire. Hein. C'est cela avant tout l'homme, hein, l'esprit. Cette vie-là est donc aussi la plus heureuse. C'est tout simple, hein, oui. Et c'est très intéressant. Alors, bien sûr, ça n'est pas la suppression de la prudence, hein, je vous l'ai déjà montré hier. Ce n'est pas non plus la suppression de l'amitié. Mais si j'ai découvert cela comme étant le principal, dans cette lumière, je verrai mon amitié d'une manière beaucoup plus profonde. Parce que la personne de l'ami, je ne vais plus seulement l'aimer à ma mesure, mais dans la lumière de Dieu comme créateur que j'adore et dont je sais qu'il est le créateur de l'âme spirituelle de l'ami. Et donc j'aime encore plus l'ami, j'aime encore plus la personne de l'autre, parce que je l'aime dans le regard de Dieu comme créateur. Ce qui est tellement important. Oui. C'est pour ça que je crois qu'il y a des choses, des purifications profondes de l'amitié, hein, par exemple par rapport à tout accaparement passionnel, par rapport à toute jalousie, à toute domination, à tout orgueil, oui, etc., à tout uniquement attrait pour le sensible, qui ne peuvent se réaliser que par rapport à la contemplation. Au fond, le vrai respect dans l'amitié provient toujours du fait que j'aime l'autre dans la lumière de Dieu. Pourquoi ? Je ne suis pas source de l'âme spirituelle de la personne de l'autre. Je ne l'ai pas faite. L'ami ne vient pas de moi. Oui, ça exige un respect très profond. Hein. Tout amour spirituel véritable implique le respect de l'autre. Parce qu'il y a toujours dans la personne de l'autre quelque chose qui me dépasse. En définitive, pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui est le créateur de son âme spirituelle. Et ça, Aristote le dit textuellement dans les parties des animaux. Il dit, pour l'homme, son âme ne vient pas des parents. Elle vient d'ailleurs, du dehors. Alors il dit pas de qui, mais... Si l'âme est spirituelle, elle ne peut venir que d'un esprit. Hein. Et c'est ce qui montre même comment, dans l'amour des parents pour leurs enfants, il y a un respect qui doit être très profond. Hein. Parce que l'âme spirituelle de l'enfant ne vient pas des parents. Elle vient de Dieu. Il y a un acte créateur unique pour chaque personne humaine qui fait que l'enfant dépend plus actuellement de Dieu que de ses propres parents. C'est ce qui est, au point de vue philosophique, la raison propre pour laquelle l'avortement n'a pas de sens. Et quelque chose qui est grave. Parce que ça attaque directement quelque chose qui touche Dieu, de manière immédiate. Alors, deuxième paragraphe que je lis, hein, il y a d'autres passages que je voulais vous lire, mais on n'a pas le temps, alors je vous lis encore un passage qui est très beau, parce que c'est très intéressant aussi par rapport à un certain regard d'Aristote sur la providence, je crois, hein, qui me semble très fort, c'est ce qui conclut son traité de la contemplation. Hein, c'est la fin du chapitre 9. Celui qui exerce son intelligence et qui la cultive semble être dans l'état le meilleur et très aimé de Dieu. C'est extraordinaire mais qu'un païen ait dit ça. L'homme qui exerce son intelligence, il est très aimé de Dieu. Oui, c'est très bien. Hein. Oui, la philosophie fait que, je ne dis pas que nous séduisons Dieu, mais quand même quelque chose comme ça. Parce que nous cherchons la sagesse. Or, la sagesse appartient à Dieu. Oui, hein, c'est même dans l'Écriture, ça. Hein. Celui qui creuse, hein, qui cherche la sagesse comme un chercheur de trésors, la trouvera assise à sa porte. Oui. Dieu vient au devant de l'homme qui cherche la sagesse. C'est pour ça que je crois, même pour un chrétien, la coopération la plus profonde avec Dieu, du moins celle qui est à notre portée, hein, c'est la recherche de la vérité. Il y a d'autres coopérations plus profondes, hein, qui sont de l'homme en tant qu'il a la grâce et qu'il coopère comme ami et comme instrument de Dieu. Mais au point de vue naturel, la coopération la plus profonde de l'homme avec Dieu, c'est la recherche de la sagesse. C'est pour ça que je crois, hein, dans un point de vue chrétien, que c'est ce qui dispose le plus l'homme à recevoir la foi. Alors, celui qui exerce son intelligence et qui la cultive semble être dans l'état le meilleur et très aimé de Dieu. Si en effet les dieux prennent quelque souci des affaires humaines comme on le pense. Oui, là il fait allusion aux traditions religieuses. Hein. Il passe, vous voyez, très aimé de Dieu. Si, comme on le dit dans les traditions, les dieux s'intéressent aux hommes, oui, il assume les traditions religieuses. Si, en effet, les dieux prennent quelques soucis des affaires humaines comme on l'estime, comme on le pense, il sera également raisonnable de penser qu'ils se réjouissent de ce qui est le meilleur et présente le plus d'affinité avec eux. Ce ne saurait être que l'esprit. Et qu'ils récompensent à leur tour ceux qui chérissent et honorent au plus haut point cela, comme ceux qui ont le souci des choses qui leur sont chères à eux-mêmes et agissent avec droiture et noblesse. Et l'homme qui chérit la sagesse, qui cherche à contempler Dieu, est très aimé de Dieu parce qu'il se soucie de ce qui touche le plus Dieu, parce que c'est Dieu lui-même. Alors vous voyez, là on voit une espèce de parenté, et au fond, je dirais, l'embryon d'une amitié entre l'homme et Dieu. L'amitié parfaite entre l'homme et Dieu sera par la charité, parce qu'il faut que ce soit Dieu qui en prenne l'initiative. Mais au point de vue philosophique, il y a une certaine amitié avec Dieu par la contemplation. Parce que je m'intéresse à ce qui touche Dieu le plus, parce que c'est ce qui est propre à Dieu. Et tout le reste, c'est très bien, mais ce n'est pas immédiatement lié à Dieu. Oui, c'est très beau, parce que ça veut dire, pour le philosophe, comment Dieu nous regarde-t-il ? Dieu nous regarde en premier lieu par le désir que nous avons de le connaître, lui. C'est tellement fort, ça, oui. Dieu ne s'intéresse pas d'abord aux choses accidentelles, à la prudence, aux choses morales. Oui, très bien, mais premièrement, à la recherche de la sagesse. Au point de vue surnaturel, Dieu nous regarde par le Christ, hein, mais au point de vue naturel, Dieu nous regarde en premier lieu dans notre désir de le connaître et de l'aimer. Comme ceux qui ont le souci des choses qui leur sont chères à eux-mêmes, les dieux, et qui agissent avec droiture et noblesse. Or, tout cela appartient au plus haut point au sage. Cela n'est pas douteux. Le sage est donc l'homme le plus aimé de Dieu. C'est extraordinaire. Le sage est donc l'homme le plus aimé de Dieu. Il est drôlement audacieux. Et ce même homme est aussi, semble-t-il, le plus heureux. De cette façon, par conséquent encore, le sage sera heureux au plus haut point. Il est heureux au plus haut point, pourquoi ? Parce qu'il a cette espèce de connaissance qu'il est celui qui est le plus aimé de Dieu. Parce que c'est ça qui nous donne le bonheur, c'est de savoir qu'on est aimé de Dieu, en fait. La joie, c'est de savoir qu'on est aimé de quelqu'un qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. Et comme c'est fort, parce que ça montre que dans le regard d'Aristote, il n'y a aucune attitude de l'homme par rapport à Dieu qui soit une attitude de crainte, servile, voyez, de peur. Oui, ça tranche par rapport aux Grecs. C'est, voyez, quand on voit, hein, dans le contexte grec, voyez, hein, la moïra, la destinée, hein, l'homme soumis à la vindicte des dieux qui a peur. Voyez, regardez Édipe, hein, tous les tragiques grecs. Le rapport entre le divin et l'homme, c'est un rapport tragique pour la plupart des Grecs dans la tragédie. Dans les pièces, hein, du 5e siècle athénien. Aristote, comme philosophe, montre qu'au contraire, le rapport entre l'homme et Dieu est un rapport d'amour. Que l'homme est aimé de Dieu. Donc Dieu cherche le bien de l'homme. C'est aussi très beau, parce que vous voyez, dans ces quelques lignes, il y a un regard merveilleux sur la providence. Hein, c'est comment est-ce que Dieu conduit l'homme, au point de vue naturel, Dieu conduit l'homme en cherchant à lui faire découvrir la sagesse. Donc ce que Dieu regarde en nous, ce qu'il a le plus le souci pour nous, c'est la recherche de la contemplation. Et je pourrais ajouter, ce qu'Aristote ne dit pas là, mais dans cette lumière aussi, par conséquent, le souci d'une véritable amitié. Et parce que la providence, comprenez, ce n'est pas d'avoir ce regard matériel, hein, ce fait que Dieu est derrière toutes les tuiles qui tombent. Hein, ça c'est matériel, parce que vous voyez, les gens qui disent, c'est la providence. Oui, la providence se sert des causes secondes. Ou plutôt, le gouvernement divin se sert des causes secondes. La providence est le regard éternel de Dieu sur la créature en tant qu'elle est faite pour un bonheur. Si le bonheur de l'homme, c'est la recherche de la sagesse et c'est l'amitié, c'est ce que Dieu regarde en nous en premier lieu. Donc je peux dire que pour un philosophe, dans toute véritable amitié et dans toute recherche de la vérité, il y a quelque chose où Dieu est présent comme créateur et comme cause première. ça vous montre comment, contrairement à ce que disent tant d'historiens aujourd'hui, le Dieu, comme ils disent, le Dieu d'Aristote, hein, le Dieu tel qu'Aristote en, Dieu tel qu'Aristote en parle, n'est pas du tout un Dieu indifférent à l'homme et étranger aux hommes. C'est juste l'inverse. Mais il faut avoir saisi ce que c'est que la sagesse. Alors, je voudrais, pour terminer, vous lire un article de saint Thomas qui est, me semble intéressant aussi par rapport à ce que nous avons cherché à faire. Alors, je ne vais pas avoir le temps de développer beaucoup, mais au moins quelques notes, quelques petites remarques. Et alors là, c'est très différent. Saint Thomas, c'est un théologien qui est un théologien chrétien qui a la foi chrétienne. Donc pour lui, ça je n'aurai pas le temps de le développer, donc peut-être ce sera une chose que vous pourrez reprendre ou ce que vous pourrez réfléchir cet après-midi. Pour lui, comme théologien chrétien, la connaissance que l'homme a de Dieu, elle est regardée en premier lieu, et c'est tout son effort théologique premier, au niveau de la vision béatifique. Quelle connaissance l'homme a-t-il de Dieu ? Cette connaissance la plus parfaite qu'un homme puisse avoir, c'est la vision béatifique. Alors, c'est là que je dis que je n'ai pas le temps de développer, parce qu'il faudrait que je vous lise toute cette question pour vous montrer comment saint Thomas, comme théologien, précise autant qu'il le peut ce qu'est, entre guillemets, c'est pas le TST, mais ce qu'est cette vision de Dieu. Saint Thomas dira que dans la vision de Dieu, la vision béatifique, c'est Dieu lui-même qui spécifie immédiatement notre acte de connaissance. Il dira que nous ne connaîtrons pas, nous ne connaîtrons pas Dieu dans l'éternité par les créatures, par des formes intelligibles. Nous le connaîtrons tel qu'il est. C'est dans la révélation chrétienne, dans la première épître de saint Jean. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors, vous voyez, ça a été un des grands efforts de saint Thomas, et les historiens de la théologie s'accordent pour dire que saint Thomas a une position très originale et très audacieuse. Il est le premier à dire vraiment que dans la vision béatifique, il dit l'essence de Dieu, Dieu en lui-même, qui spécifiera immédiatement notre acte de connaissance. Ce qui est impossible pour nous, concrètement, puisque notre intelligence est limitée. C'est pour ça que saint Thomas dira que notre intelligence doit être comme surélevée, transformé de l'intérieur par une grâce de Dieu, qu'il appelle le Lumen Gloriae, la lumière de gloire, qui rend notre intelligence, je ne dis pas capable, mais qui l'ouvre à la vision de Dieu. Ah oui, ça veut dire que c'est comme une extase de l'intelligence. Voir Dieu par Dieu lui-même. Vivre dans l'éternité ce que Dieu vit en lui-même, éternellement. Et c'est ça, l'espérance chrétienne, c'est de croire que nous vivrons éternellement la béatitude de Dieu lui-même. Comme une créature peut en vivre, c'est sûr, mais par la grâce. Alors, saint Thomas ajoute, second aspect, que justement, ça s'enracine dans une capacité naturelle de notre intelligence qui est faite pour Dieu, mais que c'est par la grâce que nous sommes capables d'entrer dans la vision béatifique. C'est un don gratuit. C'est Dieu lui-même qui a l'initiative, qui nous introduira dans sa propre vie. Et c'est pour ça qu'il ajoute, quelle est là notre coopération ? Notre coopération, elle est celle du désir. Ah oui, là c'est très différent de ce qu'on vient de voir en philosophie. En philosophie, la sagesse est une sagesse acquise. Je deviens philosophe. Par la recherche de la vérité, et avec une recherche philosophique extrêmement ardue, qui ne met pas 6 mois, qui met des années. Et pour Aristote, on est métaphysicien qu'à 45 ans. Puisqu'il faut avoir dépassé certaines activités humaines, vous voyez, immédiates, pratiques, etc. Il faut avoir une maturité humaine suffisante pour être vraiment sage. Alors, peut-être on peut aller un peu plus vite. Mais c'est intéressant, vous voyez. C'est acquis, la contemplation philosophique est acquise. La vision béatifique, c'est un don gratuit, elle est infuse, donnée gratuitement par Dieu. Mais quelle est notre coopération ? C'est un désir qui relève de la charité. Alors saint Thomas se demande, il dit, est-ce que parmi les saints qui sont au ciel, l'un voit plus Dieu qu'un autre ? Est-ce qu'il y a encore des rivalités, des jalousies dans le ciel ? C'est pas juste, il le voit plus que moi, voyez. Oui, vous imaginez pas. Alors, vous voyez, il est au premier rang, moi je suis. Il a fauteuil d'orchestre, moi je suis au pigeonnier. Non, c'est pas ça. Hein. C'est pas un spectacle. Mais il dit, hein, ce don gratuit de la vision de Dieu, Dieu veut. Enfin, il est lié à l'intensité de notre charité. Et donc, tant qu'on est sur la terre et qu'on vit dans la foi est faite pour nous faire grandir dans l'intensité de la charité. L'épreuve de la foi, c'est pour que notre désir d'être totalement à Dieu grandisse. C'est pour la croissance de la charité. Oui, c'est très beau parce que Sainte Catherine de Sienne ne dira pas autre chose. C'est déjà dans Saint Thomas. Saint Thomas dit ça textuellement dans la question 12 de la Prima Pars. L'intensité de la vision béatifique est liée à l'intensité de notre désir qui provient de la charité, qui est encore une grâce de Dieu, bien sûr. Mais nous pouvons y coopérer. Bon, c'est tout le sens de la vie chrétienne, hein, je ne développe pas plus. Alors, c'est dans cette lumière, vous voyez, comme théologien, que saint Thomas regarde, dans la lumière de la vision béatifique, qui, dans cette lumière, il regarde toute connaissance de Dieu. Pour celui qui a la foi chrétienne, pour le chrétien qui sait qu'un jour il verra Dieu tel qu'il est, dans cette lumière, toute connaissance de Dieu à sa place. Et c'est pour ça que la lumière de la vision béatifique ne détruit pas la recherche philosophique. Au contraire, le chrétien qui sait qu'un jour il verra Dieu tel qu'il est, tout ce qu'il peut connaître de Dieu, même par lui-même, il le cherche. C'est pourquoi saint Augustin dit que la plus petite lumière que l'on peut obtenir au sujet de Dieu est plus importante et plus noble que toutes les connaissances des choses finies réunies. Ah oui, vous n'auriez pas dit ça. C'est très fort. Et quand vous voyez, hein, dans le monde d'aujourd'hui, l'extension des sciences, eh bien, c'est très peu de choses à côté d'une petite lumière dans la sagesse philosophique. Et si au moins la session vous a servi à ça, c'est déjà quelque chose. Parce que ça vous rapproche plus de la vision béatifique que l'extension des sciences. Et les mathématiques n'existeront plus dans la vision béatifique. Par contre, la sagesse philosophique demeurera. Ouais. La sagesse demeurera. Je ne dis pas qu'on fera encore des cours de philosophie, mais peut-être, après tout, ce serait amusant. Alors, je vous lis juste un article pour terminer, parce que saint Thomas, c'est une très belle chose qui me semble importante à retenir, et puis vous y réfléchirez, vous continuerez. C'est dans la question 12, donc somme théologique, hein, dans la somme théologique, prima pars, je n'explique pas tout ça, question 12, article 12, où il se pose cette question. Dans cette vie, pouvons-nous connaître Dieu par notre raison naturelle, par l'intelligence ? Donc vous voyez, c'est un théologien qui regarde la connaissance philosophique. Je dis ça, c'est important parce que c'est là, il apporte quelque chose à la démarche d'Aristote qui me semble très éclairant. Alors, voici ce qu'il dit. Notre connaissance naturelle tire son principe à partir de la connaissance sensible. C'est pourquoi, plus notre connaissance naturelle peut s'étendre, notre connaissance naturelle peut s'étendre dans la mesure où elle peut être conduite par les réalités sensibles. Vous voyez, pour le philosophe, je pars de ce dont j'ai l'expérience. Et ma connaissance s'étend autant que les réalités dont j'ai l'expérience peuvent me conduire, aussi loin qu'elles peuvent me conduire. Mais à travers une démarche philosophique, bien sûr. Je ne reste pas dans le sensible. Mais ça repose toujours au point de départ sur la réalité expérimentée. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je n'ai pas l'expérience de Dieu immédiatement comme philosophe. Je n'ai jamais expérimenté Dieu comme homme. J'ai l'expérience de l'univers. J'ai l'expérience d'une personne que j'aime. J'ai l'expérience de telle réalité existante, sensible. Cette réalité existante peut me conduire par le cheminement philosophique jusqu'à la découverte de l'existence de Dieu, et jusqu'à une certaine connaissance de sagesse, une certaine contemplation de lui, à travers ces réalités dont j'ai l'expérience, qui sont les effets de Dieu, hein, parce que ce sont des créatures. Alors, or, à partir des réalités sensibles, notre intelligence ne peut pas aboutir jusqu'à la vision de l'essence de Dieu. Mais le philosophe ne peut pas parvenir par sa seule intelligence à la vision béatifique. C'est par la grâce qu'on y sera introduit. Je souligne ça, c'est absolument capital, parce que c'est la grande erreur hegelienne. pour Hegel, le raisonnement dialectique me conduit jusqu'à la vision de Dieu. Je crois que c'est ça l'erreur la plus fondamentale de sa position. C'est qu'au fond, pour lui, notre philosophie coopère à la vision béatifique. Alors que c'est un don gratuit. Alors, vous voyez, saint Thomas, au contraire, c'est tellement net. Hein. Les réalités sensibles dont nous avons l'expérience ne peuvent pas nous conduire jusqu'à la vision de l'essence de Dieu. Parce que les créatures sensibles sont des effets de Dieu qui ne sont pas adéquates à leur cause. C'est pourquoi, à partir des réalités sensibles, notre connaissance ne peut pas connaître toute la puissance de Dieu. Et par conséquent, elle ne peut pas voir l'essence de Dieu. Et quand je vous expérimente, vous êtes une créature, je ne vois pas Dieu quand je vous vois. Vous êtes un effet de Dieu, je suis désolé, très inadéquat à la cause. Vous voyez ? La créature ne me fait pas voir Dieu immédiatement. Mais comment, vous voyez, comment je vais remonter de cette réalité limitée dont j'ai l'expérience jusqu'à l'être premier qui est cause et qui est infini. Alors, cependant, mais parce qu'elles sont des effets de Dieu qui dépendent d'une cause, à partir de ces réalités, nous pouvons d'abord parvenir à connaître de Dieu qu'il existe. Première chose, vous voyez ? Donc ça, c'est, vous voyez, un jugement sur la connaissance philosophique. À partir des réalités dont nous avons l'expérience, nous pouvons d'abord connaître il existe un être premier que l'on appelle Dieu. Je ne vous montre pas de quelle façon on peut le montrer, mais c'est toutes les, ce qu'on appelle les voies d'accès à la découverte philosophique de l'existence de Dieu. Cela se réalise par la causalité. J'ai l'expérience d'une réalité existante limitée qui me permet de remonter jusqu'à la découverte de l'existence d'une cause première de toute chose. Premier aspect. Donc nous pouvons d'abord parvenir à connaître de Dieu qu'il existe. Et nous connaissons de lui les choses dont il est nécessaire qu'elles lui conviennent en tant qu'il est la première cause de toute chose et qu'il dépasse toutes les choses qui sont causées par lui. C'est pourquoi nous connaissons de lui le rapport qu'il a avec les créatures, à savoir qu'il est cause de toutes les autres réalités. Et nous connaissons la différence des créatures à son égard, à savoir que lui-même n'est rien des choses qui sont causées par lui. Et cela, nous le rejetons de lui, non pas à cause d'un défaut ou d'un manque de sa part, mais parce qu'il dépasse toutes les créatures. Ah oui, ça, je trouve que c'est très très beau, parce qu'on a là un petit traité extrêmement simple, mais de ce que c'est que la démarche contemplative pour saint Thomas au point de vue philosophique. Il y a trois aspects. Nous connaissons d'abord de Dieu qu'il existe par la causalité. Nous connaissons en second lieu, nous connaissons par là, le lien, la relation qui existe entre Dieu et les créatures. L'acte créateur, par les philosophes, il est saisi comme une relation. J'existe en dépendance de l'être premier. Deuxièmement, nous saisissons tout ce qui ne peut pas appartenir à Dieu dans les créatures. Donc on se sert, oui, de la négation. On nie de Dieu tout ce qui appartient à la créature comme créature et qui ne peut pas lui appartenir parce qu'il est Dieu, parce qu'il est premier. Pour ça, oui, on niera de Dieu le devenir, la potentialité, la complexité, l'imperfection, etc. Tout ce qui appartient au mode propre de la créature, parce que la créature est seconde dans l'ordre de l'être, on le nie au sujet de Dieu. Et cela, on le nie pourquoi ? Non pas parce que ça lui manque, au sens où il lui manquerait quelque chose pour être parfait, mais parce qu'il dépasse toutes les créatures. Donc, troisième aspect, et un aspect positif, c'est que l'on saisit par là l'éminence de Dieu en lui-même. Il est premier. Et c'est pour ça que saint Thomas dira, en reprenant cela à Denis, donc à toute une tradition néoplatonicienne, saint Thomas dira que comme philosophe, nous connaissons Dieu per modum causalitatis. Permodum negationis. Permodum eminentiae. Nous connaissons Dieu par mode de causalité, par mode de négation, par mode d'éminence. Et je souligne que c'est dans cet ordre. Et ça, c'est très important face à une certaine scolastique qui a inversé cet ordre, hein, et qui dit causalité, éminence et négation, qui termine par la négation. Alors c'est la théologie négative. Hein. Dieu est inconnaissable. Alors que non, saint Thomas dit, Dieu est cause première de toute chose. Là, c'est la dépendance actuelle dans l'ordre de l'être. L'exister de la réalité dont j'ai l'expérience, parce qu'elle est limitée, appelle la découverte de l'exister d'un être premier qui est cause première comme cause finale de toute chose. Il est acte. Parce qu'il est cause première, il n'est pas composé, par exemple. Il est donc tout à fait simple. L'éminence, c'est là le jugement contemplatif. Ce que j'affirme de la manière d'exister propre à Dieu, c'est la manière éminente dont Dieu existe. Et comment j'y parviens ? En m'appuyant sur la causalité, vous y reviendrez avec le père Philippe, je pense, et en me servant du levier de la négation. Je nie de Dieu tout ce qui est propre à la créature. Pour avoir ce regard positif, cette fine pointe de mon regard contemplatif, où j'affirme un jugement qui est d'une manière d'exister propre à Dieu, c'est une manière éminente. Et je peux faire ça par rapport à beaucoup de choses. Parce que Dieu est premier, il n'est pas, par exemple, il ne grandit pas dans l'amour. Il est amour. Il est la bonté souveraine, etc. Vous voyez, donc, ça me semble très important. Alors, bien sûr, pour saisir ça, il faut toute la métaphysique de l'acte. C'est ça qui me permet de saisir ça. C'est pour ça que, quand on n'a plus une philosophie qui va jusqu'au bout d'une connaissance métaphysique, on n'arrive plus à lire saint Thomas. La théologie scientifique de saint Thomas présuppose une métaphysique qui saisit de manière extrêmement limpide, vous voyez, ce point de contact et cette voie d'accès à la connaissance de Dieu. Alors je m'arrête. Le père Philippe sera avec vous cet après-midi, donc je vous souhaite une bonne fin de session, puis je vous remercie de votre attention. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie.